La reine blanche.
Les reines portaient le deuil en blanc. Blanche, la guimpe de toile fine qui en serrait le cou, emprisonnait le menton jusqu'à la lèvre et ne laissait apparaître que le centre du visage. Blanc, le voile qui couvrait le front et les sourcils. Blanche, la robe fermée aux poignets et tombant jusqu'aux pieds. C'était la tenue presque monacale que venait de revêtir à 23 ans et sans doute pour le reste de sa vie, Clémence de Hongrie, veuve de Louis X. Nul désormais ne verrait plus ses admirables cheveux d'or, ni l'ovale parfait de ses joues, ni cet éclat, cette splendeur tranquille qui avait rendu célèbre sa beauté. La reine Clémence avait déjà pris l'aspect de son tombeau. Pourtant, sous les plis de sa robe, une nouvelle vie était en train de se former. Et Clémence était obsédée par la pensée que son époux ne connaîtrait jamais l'enfant qu'elle attendait. Si Louis seulement avait assez vécu pour le voir naître. 5 mois seulement, 5 mois de plus. Comme il en aurait eu de joie, surtout si c'est un fils, ou bien que n'ai-je été prégnante dès le soir de nos noces. Elle tourna la tête avec lassitude vers le comte de Valois qui, d'un pas de coq gras, marchait à travers la pièce. « Mais pourquoi, mon oncle, pourquoi l'aurait-on méchamment empoisonné ? » demanda-t-elle. « Ne faisait-il pas tout le bien qu'il pouvait ? Pourquoi cherchez-vous toujours la perfidie des hommes, là où ne se montre sans doute que la volonté de Dieu ?»«
Vous êtes bien la seule à rendre à Dieu, en l'occasion, ce qui semble plutôt appartenir aux artifices du diable, » répondit Charles de Valois.
Un chaperon à grande crête, rabattu vers l'épaule, le nez fort, la joue large et colorée, ils se sont à ce sujet répandus en vilenie. Clémence le regarda droit dans les yeux. Charles de Valois se troubla et rougit un peu. Il comprit que Clémence savait. Mais Clémence ne dit rien. Elle éviterait toujours d'aborder ce sujet. Elle se sentait chargée d'une culpabilité involontaire, car cet époux dont elle vantait l'âme vertueuse avait tout de même, avec la complicité de Valois et d'Artois, fait étouffer sa première femme, afin de pouvoir l'épouser, elle, la nièce du roi de Naples.
« Et puis, il y a la comtesse Mao, votre voisine, qui n'est pas femme à reculer devant un crime, fût-ce le pire !»
se hâta d'enchaîner Valois.
« En quoi est-elle différente de vous ?» pensa Clémence, sans oser lui répondre.
« Il ne semble pas que dans cette cour on hésite beaucoup à tuer. »
Or, Louis, voici moins d'un mois, venait de lui confisquer le comté d'Artois pour l'obliger à se soumettre.
Un instant, Clémence se demanda si Valois, à désigner tant de coupables possibles, ne cherchait pas à brouiller les pistes et s'il n'était pas lui-même l'auteur du meurtre. Cette pensée, qui ne pouvait s'appuyer d'ailleurs sur rien de sensé, lui fit horreur. Non, elle s'interdisait de soupçonner personne. Elle voulait que Louis fût décédé de mort naturelle. Pourtant, le regard de Clémence inconsciemment se porta par la fenêtre ouverte sur les frondaisons de la forêt de Vincennes, vers le sud, dans la direction du château de Conflans, résidence de la comtesse Mao. Quelques jours avant la mort de Louis, Mao, en compagnie de sa fille, Jeanne de Poitiers, était venue faire visite à Clémence. Une fort aimable visite. On avait admiré les tapisseries de la chambre.
Rien n'est plus avilissant que d'imaginer un félon dans son entourage, pensait Clémence, et de commencer à chercher la trahison sur chaque visage.
« C'est pourquoi, ma chère nièce, » reprit Valois, « il vous faut rentrer à Paris ainsi que je vous le demande. Vous savez combien je vous aime. Votre père était mon beau-frère. Entendez-moi comme vous l'entendriez, si Dieu nous l'avait conservé. La main qui a frappé Louis peut poursuivre sa vengeance sur vous et sur votre fruit. Je ne saurais vous laisser ainsi au milieu de la forêt livrée aux entreprises des méchants, et je n'aurai de paix que vous ne soyez établi au plus près de moi. »
Depuis une heure, Valois s'efforçait d'obtenir de Clémence qu'elle regagnât le palais de la cité, parce qu'il avait décidé de s'y transporter lui-même. Ceci formait pièce du plan qu'il avait conçu pour s'imposer dans la fonction de régent. Qui commandait en maître au palais prenait figure royale. Mais, à s'y installer seul, Valois courait le risque que ses adversaires l'accusassent de coups de force ou d'usurpation. Si, au contraire, il entrait dans la cité derrière sa nièce Clémence, comme son plus proche parent et protecteur, personne ne pourrait validement s'y opposer et le conseil des pairs se trouverait devant le fait accompli. Le ventre de la reine était, dans le moment présent, le meilleur gage de prestige et le plus efficace outil de gouvernement. Clémence leva les yeux, comme pour demander assistance, vers un troisième personnage, un homme bedonnant, grisonnant, qui se tenait debout auprès d'elle et, immobile, les mains croisées sur la garde d'une haute épée, suivait silencieusement l'entretien.
« Bouville, que dois-je faire ? » murmura-t-elle.